L'émission que vous allez entendre a été enregistrée à la coopérative d'Envie en jeu. Riles a proposé une animation intitulée « Se situer », un jeu de cohésion permettant à un groupe de mieux se connaître, mais je vous laisse découvrir et écouter de quoi il en retourne. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé et joué le jeu.
Maintenant, on va appeler Riles.
Riles.
Pour nous proposer une animation. Il arrive.
J'ai un problème avec.
Et on peut dire que ces jeux, on les retrouve à un vieux jeu qui sont.
Alors, les deux jeux qui ont été présentés, là, que ce soit Belfédard ou Soundbox,
c'est possible d'y jouer à Envie en jeu, ouais. Qui organise des soirées jeux. Là, il n'y en a pas de programmé pour l'instant, mais ça peut rapidement venir. Et il y a aussi une sorte de ludothèque coopérative où il n'y a que des jeux coopératifs qu'on peut prêter pour la semaine et donc que vous pouvez tester chez vous.
Alors, je présente Riles, il vient de casser le Riles, n'est-ce pas? Un membre du CA d'Avien Jeu.
Je rajoute que nous avons besoin d'être adhérents pour pouvoir emprunter les jeux, mais bienvenue hein.
Mais non, ça je ne l'ai pas dit, je me doutais, mais c'était que les gens viennent au local et une fois qu'ils sont là, on ferme à clé, on les oblige à adhérer. Tu sais comment ça marche
dans
les...
Mais alors, le côté coopératif dans l'enfermement, bon, c'est difficile.
D'accord. Bon.
Du coup, tu es venu nous proposer une animation qui s'appelle « Se situer ». Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et nous proposer donc ton animation ?
Alors... Dans quelle heure je le prends ? C'est une animation qui nous aide à nous raconter dans un collectif. Et c'est une façon de faire un peu plus ample connaissance et d'apprendre... En vie en jeu, on travaille beaucoup sur les questions d'éducation relationnelle. Et dans l'éducation relationnelle, il y a la question de la relation à soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Là-dessus, on vient travailler sur la relation à soi, comment on se raconte, comment on raconte d'où on vient et d'où on parle pour parler de quelque chose. Et ça permet y compris aux autres dans le collectif de mieux comprendre et de mieux entendre ce dont on vient parler. Alors j'ai cette maxime dans la tête, ne faites pas ça tout seul à la maison sans un cadre bienveillant et empathique pour pouvoir accueillir les remous émotionnels que ça pourrait provoquer. C'est une animation qui va nous inviter à raconter d'où on vient et d'où on parle. Et donc c'est un petit récit de vie qui dure entre 5 et 7 minutes et où on va répondre aux questions de quelle était l'histoire de mon prénom, est-ce que mes parents ont un projet de vie pour moi ou avaient un projet de vie pour moi, ma relation à l'école, le milieu socio-culturel de mes parents, donc leur niveau de vie, la profession qu'ils avaient, le revenu, le bagage culturel, merci, qu'ils avaient. Est-ce que mes parents étaient propriétaires de leur logement ? Est-ce que je suis propriétaire de mon logement ? Et la dernière, est-ce qu'on parlait politique à la maison ? Et ça nous permet de partager dans un collectif les endroits qu'on a en commun aussi, ou les endroits où on a plus ou moins de facilité à s'exprimer en public, à parler de politique, à parler culture, à parler de multiples choses. Voilà, je vous expliquerai un peu plus longuement, une fois qu'on aura fait ce petit jeu, ce que ça vient produire dans le groupe et ce que ça montre comme marqueur au niveau de notre société. Alors, personne n'est obligé de jouer à ça, hein, c'est celles et ceux qui veulent, bienvenue.
C'est très intello.
Oui, moi du coup j'ai très envie de jouer à celui-là parce que j'étais très frustrée quand on était allé aux résistantes. Riles a proposé pendant la préparation à toute l'équipe d'y jouer. Bonjour, je suis Chloé au fait, salut.
Bonjour Chloé.
Et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir y jouer enfin, voilà.
Ah bah, ça me permet de dire, c'est un, c'est une composition qui vient des milieux de l'éducation populaire et de la production des conférences gesticulées. C'est des outils qui sont un peu plus dispatchés, mais qui nous permettent d'apprendre à se raconter. Voilà. Et si vous voulez, je peux commencer, si ça peut faciliter.
Vas-y, Riles, commence.
Alors, moi, je m'appelle Riles, et mon prénom, c'est mon arrière-grand-mère paternelle qui me l'a donné. Mon prénom veut dire lion en kabyle, et c'est ma mère maternelle, du coup, qui est allée demander à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère paternelle, quel prénom elle souhaiterait que j'aie. Et du coup, c'est elle qui a déterminé quel prénom j'aurais. Et il y a une petite anecdote avec ce prénom. Je suis né à Toulouse en 1987 et mon père, quand il va m'inscrire à l'état civil, à la mairie, l'agente au guichet lui dit « Comment s'appelle votre fils ?» Et mon père lui dit « Il s'appelle Riles. » Et là, la dame à l'accueil dit « Mais comment ça ? Les Arabes, ils s'appellent Rachid ou Mohamed ?» Riles, bienvenue en France. Et du coup, mon père expliquera que Riles, c'est kabyle et berbère, et qu'on va l'écrire G-H-I-L-E-S. Et là, elle fait « Oh, mais ça va, tout va bien, ça fait Gilles !» Voilà, voilà. C'était quoi les autres questions ? Ah oui, est-ce que mes parents avaient un projet pour moi ? Je pense qu'ils en avaient plusieurs. Il y avait un souhait, en tout cas de ma part de ma mère, que je fasse des études. Et je vais répondre à la dernière question en même temps. On parlait beaucoup politique chez moi, en Algérie. L'ensemble de mes parents faisaient partie du Parti communiste clandestin. Et donc, du coup, moi, j'aime bien dire que j'ai appris à parler politique avant d'apprendre à compter. C'est-à-dire qu'on m'a appris à jouer aux cartes en me disant « Ça, c'est le roi, il vole tous les biscuits ». Et du coup, moi, j'ai l'habitude de parler politique depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai une aisance à parler de ça. Et j'ai fait un pied de nez à mes parents qui étaient... mon père était architecte, ma mère est ingénieure agro-socio-économiste. Mon grand-père est psychiatre... ma grand-mère est psychiatre, mon grand-père est médecin. Et ma grand-mère maternelle, elle n'a pas eu le bac. Et elle n'a pas pu aller jusqu'au bac. Elle était algérienne et elle a eu accès à un faible niveau d'études en Algérie. Et moi, j'ai dit au moment où j'ai eu mon bac, je serai un intellectuel de gauche sans faire d'études. Mon grand-père nous a rendus propriétaires. Donc pour le milieu socio-culturel CP, ah oui, ma relation à l'école. J'ai toujours eu une relation très difficile à l'école. On me taxait d'être insouciant, peu concentré et inattentif. Bon, alors j'étais un peu préoccupé par d'autres choses. Et puis je découvrirai plus tard que j'ai un TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, qui a dû probablement occasionner un certain nombre de choses vis-à-vis de l'école. Et moi, ma relation avec l'école, ça a toujours été très difficile et mes profs ont souvent marqué sur mes bulletins « peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire ». Bon, l'école était peu adaptée, en tout cas à ma condition. Et je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Voilà.
Merci.
À qui le tour ?
Bon, moi, je veux bien prendre la suite, mais je vais essayer de... Donc, je vais commencer par mon prénom. Mon prénom, c'est Alex. C'est moi qui l'ai choisi à 17 ans. J'ai changé de prénom. Donc, voilà. Et il se trouve que tout le monde m'a appelé Alex tout de suite. Tout le monde m'appelle Alex. Mes grands-parents m'appelaient Alex. Dans le cadre de mon travail, on m'appelle Alex. Donc, c'est une opération qui a plutôt bien marché. Ensuite, c'est quoi la deuxième question ?
Est-ce que tes parents avaient un projet de vie ?
Ah oui.
Pour toi ?
Alors peut-être, mais il n'était pas très clair parce que je ne l'ai toujours pas très bien compris. Donc voilà, troisième question.
ta relation avec l'école?
Alors, j'adorais l'école. J'ai eu la chance, parce que c'est un hasard, c'était pas du tout une volonté de mes parents d'être dans un maternel et primaire, surtout la maternelle Montessori, donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, la primaire était encore un peu dans cette mouvance-là. Le collège, très difficile. Et plus ça allait, en fait, moins j'étais bonne. Alors qu'au primaire, j'étais tout le temps dans les premières, deuxième, tout ça. Mon frère aussi. Et plus ça allait, moins c'était intéressant et facile. Et puis comme en fait, j'avais des facilités, je n'ai jamais appris à travailler. Et plus ça allait, moins ça allait. Si bien qu'au lycée, j'allais que dans les cours qui m'intéressaient, mais j'ai quand même eu mon bac. Moi, il y avait une des appréciations, c'était « ne connais pas l'élève », par exemple en sciences physiques. Voilà. Après ?
Le milieu socio-professionnel, socio-culturel, d'où tu viens ?
Alors, pour continuer dans les anecdotes, à l'époque, j'ai une amie qui avait retrouvé mon carnet de correspondance du lycée et j'avais marqué « profession mère chômage, profession père gardien de refuge ». Donc voilà, mais c'était à ce moment-là. Sinon, ma mère a longtemps été assistante dentaire, quoi, et mon père artisan, donc j'étais plutôt employé ouvrier, quoi.
Propriétaire ou...
Je ne suis pas propriétaire, mes parents non plus, sauf que ma mère a fini par, à la mort de sa mère, racheter les parts de la maison de ses frères et sœurs et est devenue propriétaire vraiment sur le tard.
Et est-ce qu'on parlait politique à la maison ?
Non. On parlait pas de beaucoup de choses à la maison.
Merci.
Alors moi, je m'appelle Jean-Marie Fally. Je suis à la retraite depuis 2 ans, soit 4 ans. Je viens de milieu social paysan. Mon père était paysan. Il était propriétaire. Il était famille de paysan. Mon grand-père était paysan. Ma mère était au foyer. Donc, à la campagne, c'est comme ça. Hein. Le couple s'entraide entre eux. Ils travaillaient ensemble. Mais ma mère ne gagnait pas le salaire. Mon père, à sa retraite, a eu une très petite retraite, comme tous les agriculteurs, ce qui est un vrai scandale, il faut le dire. Ils ont travaillé de noir, des noirs comme toute leur vie, et quand ils arrivent à la retraite, ils galèrent. Quoi. Moi, je suis occupé de lui, il était en EHPAD. C'était vraiment lamentable. Bon, moi, ils m'ont toujours poussé, mes parents. J'ai passé un bac scientifique, je ne l'ai pas eu, parce que je ne l'ai pas travaillé. Arrivé à terminale, j'ai travaillé ma terminale, mais arrivé au bac, je n'ai pas révisé. J'avais fait un bac biologie, maths. À l'époque, je ne l'ai pas travaillé, je ne l'ai pas eu. Le frère de ma mère était fou quand il a eu ça. Et l'année suivante, j'ai redoublé la terminale. J'ai passé un bac littéraire, un bac A4, c'est-à-dire philo, français philo. Et je l'ai eu avec mention. J'ai continué à la fac à Montpellier. J'ai fait du droit, j'ai une maîtrise en droit public. J'ai fait à 50 ans, ici à Millau, j'ai trouvé une école de journalisme dans le privé. J'ai une équivalence à ma maîtrise, j'ai une licence en journalisme de presse écrite. J'ai fait des stages à Midi Libre, au Journal de Millau, avec Anne-Marie Rivemal qui est à la retraite maintenant. On a fait des émissions à Radio Larzac, là, on en a fait plein, une émission par semaine on avait. Qu'est-ce que je pourrais raconter de plus, non ? Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Alors attends, a priori tu as répondu à ça. Est-ce que tes parents avaient un projet de vie pour toi ?
Leur projet de vie, c'est que je gagne ma vie comme il faut, quoi.
D'accord.
Que je réussisse dans la vie, c'était leur projet. Ils avaient beaucoup travaillé, ils vivaient à la campagne, on vit bien, mais ils n'avaient pas de gros revenus, quoi. Mais ils voulaient que je sois bien dans la vie, quoi. Que je gagne ma vie, quoi, comme il faut, bien, quoi. C'était leur projet. Hein.
Et est-ce qu'on parlait politique à la maison ?
On parlait beaucoup politique. Hein. Mon grand-père était gaulliste, mon père était gaulliste, mon oncle était gaulliste, hein. Et moi j'étais socialiste. Alors je te dis pas les débats à la maison. Oui. Ma mère ne s'occupait pas de politique du tout. D'ailleurs, quand on parlait politique dans les repas de famille, elle nous engueulait, quoi. Elle ne voulait pas qu'on parle politique. Elle savait très bien que ça allait chauffer. Donc, elle faisait la cuisine, elle ne voulait pas qu'on parle politique, mais on parlait politique quand même. Hein. Donc, tu as compris que là, il y avait un problème. Quoi. Voilà, c'est tout.
C'est bon.
Okay. Merci.
Merci.
Ok. Du coup. Je veux bien de l'aide pour que tu me rappelles l'ordre si besoin. Je m'appelle Chloé Elanor Albert. Donc Chloé pour l'écume des jours de Boris Vian. Mon cousin s'appelle Colin. Elanor pour la fleur des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, parce que mon père a réussi à draguer ma mère en lui racontant Le Seigneur des Anneaux. et j'ai échappé à Galadriel Albert, merci maman, parce que ça aurait été peut-être beaucoup plus lourd à porter que Chloé. Et Albert, pour l'assistance publique qui a recueilli mon arrière-grand-père le jour de la Saint-Albert. Donc voilà. Petite anecdote du prénom. Je m'appelle Albert, donc patronyme paternel et non maternel, parce que mes parents voulaient inverser un petit peu la tendance et que je prenne le nom de famille de ma mère, mais que mon grand-père a fait un jeu de mots laid pour Jean Bête, alors toujours le langage, la littérature, mais que Chloé Solal, ça aurait fait cloué au sol, et que du coup, il ne voulait pas que je sois cloué au sol, donc Albert. Voilà. Après, le prénom, c'est l'école.
Le projet de vie.
Le projet de vie. Je crois que les seuls projets de vie, donc j'ai une sœur, une petite sœur que mes parents ont formulé pour nous, c'est qu'on soit heureuse. Et du coup, c'est une énorme pression parfois, parce que qu'est-ce que le bonheur ? Et donc, notamment, pour ma mère, le bonheur, c'est d'avoir des enfants et d'être en couple, ce qui n'est pas forcément ma définition du bonheur. Donc, voilà. Non, je pense qu'il y a un projet de vie qui n'est pas forcément celui de mes parents, qui est plus celui globalement de la famille, qui est qu'on prenne une sorte de revanche sociale et qu'on soit diplômé, qu'on soit reconnu. Voilà, donc on est, ma sœur et moi, les premières à avoir eu le bac, donc diplôme dans la famille. Licence et master pour ma sœur, voilà, donc... c'était pas une pression en soi, mais vraiment un truc qui tendait à, ce qui veut pas dire que il y avait pas de personnes intelligentes ou cultivées ou dans la famille. Les livres, la littérature, c'est hyper important, mais au niveau scolaire ou académique, voilà, comme j'ai dit, on était première. Après, mes parents auraient pu l'être diplômés, mais c'était mai 68, voilà, ils sont pas allés au bac, quoi, ils sont allés faire la fête. Et donc voilà, après, c'est...
La relation à l'école.
Eh ben, du coup, ma relation à l'école... j'ai jamais bossé. J'avais des grosses facilités. Je crois que je suis arrivée en maternelle, je savais lire déjà. Et mes parents ont refusé qu'on me fasse sauter des classes. Et par contre, le collège, ça a été recta. En fait, j'ai jamais bossé jusqu'à la licence. C'est pour ça que j'ai arrêté la fac, parce qu'il fallait commencer à bosser. Et que j'avais la flemme.
Je peux terminer ?
Ou pas, mais ça dépend. Mais si, allez, vas-y.
La fac, il faut aller en cours. On n'est pas encadré. C'est pas comme au lycée. Il faut aller en cours, il faut aller au TD, travaux dirigés. Et il faut travailler chez soi. Tous les soirs, si on ne travaille pas, on arrive. On n'a pas de diplôme, même si on est très intelligent, ça s'apprend, il faut travailler.
Mais en fait, je te remercie de cette intervention, parce que ça me peut me permettre de préciser que, justement, pour moi, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de capital culturel et de facilité dans la famille. Et que moi, je l'avais. Et que du coup, effectivement, quand il a fallu creuser un petit peu plus que ce que j'avais déjà acquis et faire des efforts, bon, c'est là que moi, je suis passée à autre chose. Parce que plein d'autres raisons, pas forcément liées à ça, mais voilà. Mais du coup, je me suis perdue. Bon, je sais plus où je suis. Voilà mon rapport à l'école.
Milieu socio-culturel ?
Alors, du côté de... donc, ma mère, ils sont à la retraite tous les deux. Éduxpé, ils ont fait famille d'accueil. Et du côté de ma mère, milieu, du coup, la poste, fonctionnaire, vers le tard, mais plutôt après... paysan, donc syndicaliste. J'ai mon micro qui s'enfonce au fur et à mesure. Et ouais, voilà, du côté maternel et du côté paternel aussi fonctionnaire. Donc mon père est paysan à la retraite, 200 euros de retraite par mois, voilà. Et par contre, lui, il a choisi de revenir à la terre parce que de son côté, c'est plus la SNCF ou alors transport routier, voilà. Il y a aussi un peu du monde du spectacle, mon arrière-grand-mère qui était dans les cabarets, voilà, des trucs comme ça. Voilà.
Propriétaire de son logement, toi et tes parents ?
Bah, la propriété, donc famille d'origine du côté de mon père anarchiste, donc un rapport compliqué à la notion de propriété. Et paradoxalement, je suis propriétaire de 3 maisons, du coup. du coup, mes parents ont acheté assez tôt. Et maintenant, on a la donation. Ils ont eu la donation de leurs parents. Enfin, si dans la famille, globalement, il n'y a pas de confiance énormissime dans la société, vu qu'ils ont vécu la retirada ou des pieds noirs d'Algérie ou quoi que ce soit. Donc, le fait d'être propriétaire, ça veut dire que tu dépends de personne et tu peux être indépendant. Donc, des deux côtés de la famille, il y a des propriétaires. Voilà. Et moi, je suis propriétaire.
Et est-ce qu'on parlait politique à la maison ?
Alors, oui, énormément. Et donc, comme je disais, d'un côté, arrière-grand-père anarchiste, retirada, et du côté de ma mère, juif intégriste pour une partie, ou catholique. Et donc, on parlait beaucoup politique, et c'était très tendu et très intéressant. Et voilà.
Merci. Bon, moi, je peux passer ainsi rapidement, oui. Alors, l'histoire de mon prénom. Donc je m'appelle Maxime Sylvain Jeune. Il y avait déjà un Sylvain Jeune. C'était un cousin qui m'a battu de quelques mois. Donc il a eu le droit de s'appeler Sylvain en premier prénom. Et moi j'ai eu Maxime, j'imagine à cause de Maxime le Forestier ou un truc dans le style. Non, franchement je sais pas trop, mais vraiment pas vraiment de raison, ils aimaient bien le prénom. Deuxième, c'est rapport à l'éducation le deuxième ? Rapport à le projet des parents. Alors, j'ai entendu plusieurs choses qui ont pas mal résonné. Entre autres, ce que tu disais, le souhait de ma maman, c'était clairement qu'on soit heureux, moi et mes sœurs et moi. Et c'est vrai que c'est pas facile de savoir ce que ça veut dire. Je pense que, à l'abri du besoin, enfin, il y a un truc de sécurité qui est assez clair pour eux. Donc là, je vais passer directement, je vais faire un petit saut par la propriété. Mes parents nous ont tous mis un PEL dès qu'on est né, qu'ils ont garni chaque mois de leur vie active. Et ça m'a permis d'acheter une maison là, donc, récemment. Et mes soeurs ont eu le même traitement, évidemment. Donc il y avait cette idée, en tout cas, de sécurité matérielle, ouais, je pense. Et il y avait l'idée aussi, d'être raccord avec des valeurs de simplicité, on va dire. Je pense que mes parents, donc là je vais passer un petit coup sur le milieu socio-culturel, mais donc mon père avait un travail de cardiologue. Je pense qu'il gagnait bien sa vie et en général on vivait quand même assez largement en dessous de nos moyens. On mangeait des choses très simples, on faisait beaucoup de camping, on n'avait pas une maison très clinquante, c'était très simple. Et il y avait toujours un esprit presque décroissant, en tout cas dans la consommation, de toujours essayer de réduire au maximum. Je sais qu'un des premiers souhaits de ma mère, ça avait été de partir en Afrique, de partir dans des endroits où il n'y avait pas grand-chose. Enfin, où il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, que matériellement, la vie était plus difficile. Et elle en avait retiré, en tout cas, une certaine vision d'économie. Quoi. Elle ne voulait pas qu'on dépense d'eau, elle ne voulait pas qu'on dépense quoi que ce soit. Pour les vêtements, il fallait faire au minimum, etc. Donc, voilà. Ça, c'était pour le projet des parents. Après, je pense qu'ils sont très contents de voir que je suis en couple hétérosexuel et que ça se passe bien et que je fais plein d'activités, artistiques. Je pense qu'il y a une certaine idée d'épanouissement, de créativité qui était présent dans le projet dès le départ. Et que je pense que j'ai coché pas mal de cases de ce côté-là. Donc, ils doivent être assez contents de ça, je pense, ouais. Donc je disais des vacances en camping, mais on allait pas mal. Il y avait un côté très culturel. On allait visiter les musées. Ils m'ont traîné au Guggenheim quand j'avais 10 ans, je sais pas. Et bon, ça m'a plu. Et en même temps, à l'époque, je voyais pas trop l'intérêt, mais je vois bien ce que j'y ai gagné aujourd'hui, quoi. Ça débordait sur le milieu socio-culturel. C'est quoi la question suivante ? C'est l'éducation ?
Ta relation à l'école, oui.
Relation à l'école. relation à l'école. J'ai jamais eu beaucoup l'impression de bosser, même si je sais que je faisais tranquillement mes devoirs assez sagement, mais je les ai assez vite, j'avais des facilités. Pour mes sœurs aussi, qu'elles avaient beaucoup de facilités, on a tous très bien réussi scolairement. Moi, j'étais jamais vraiment en tête de classe, je devais être dans les 3, 4e, et j'ai toujours eu comme toi, Riles, des peu mieux faire sur mon bulletin. Et je m'en... en fait, c'est que je subissais un peu le truc, quoi. J'avais vraiment pas une... J'étais assez passif dans l'enseignement. J'avais pas l'impression d'avoir choisi ce que je faisais. Et ça me posait pas de problème de le faire, mais ça m'excitait pas plus que ça. Il y avait à la limite le français que j'aimais bien. J'avais, je pense, un goût aussi pour la résolution de l'optimisation, les problèmes, un peu la physique. Enfin, j'ai fait des sciences de l'ingénieur avant de faire les beaux-arts ensuite. Donc les sciences de l'ingénieur, pour moi, c'était vraiment la... J'ai fait une école d'ingénieur. Enfin, j'ai commencé une école d'ingénieur. C'était vraiment la continuité de ce que j'avais appris à l'école d'éducation nationale et au lycée. Donc, c'est ce que tout le monde m'avait recommandé en voyant mes résultats. Je suis allé sans trop me poser de questions. Et une fois arrivé là-bas, en fait, j'ai eu l'impression d'être pas livré à moi-même, mais j'avais moins de gens autour. Enfin, j'ai pu décider un peu ce que je voulais faire de ma vie. Et là, je passais mon temps à dessiner. J'avais toujours un carnet de croquis. Je passais mon temps à dessiner les profs et mes collègues et les gens en général. Je passais mon temps à dessiner, en fait. Et donc, je suis allé aux Beaux-Arts à la fin de l'année. Enfin, on m'a conseillé fortement de faire des études de Beaux-Arts. Même si je sais plus qui est-ce qui a dit que... Enfin bon, en tout cas, que j'ai eu ma première année d'ingénieur et voilà, j'étais content de ça, mes parents aussi. Et donc, ça m'a permis aussi de sans trop de heurts d'aller vers des études artistiques. J'avais dit que je voulais faire court au début. Ouais. Ouais, j'ai raté.
Je fais un rebond tout à l'heure. Et juste, est-ce que ça parlait politique ? Pardon.
Ouais, je dis un dernier truc sur les Beaux-Arts et après je réponds à est-ce que ça parlait politique. Sur les Beaux-Arts, quand je suis arrivé là-bas, c'était super bizarre, c'était la liberté. Et j'ai trouvé que c'était une contrainte énorme. Parce que autant quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais juste des exercices à résoudre. Et je trouvais ça super dur parce qu'il y avait beaucoup de choses à savoir, beaucoup de connaissances à acquérir. Mais au moins, ce qu'on me demandait de faire était hyper clair. Quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, on me donnait un sujet et on me disait voilà, vous avez 2 semaines. Et en fait, c'était le grand vide, quoi. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Premier sujet, je me rappelle, c'était le petit et le grand. Vous devez faire une photocopie. Donc on devait être amené avec un A4 photocopié. On en avait 3 semaines, je crois, pour faire une photocopie. Une photocopie, ça se fait en 10 secondes. Qu'est-ce que je fais du reste du temps, quoi? Et en fait, ce grand vide-là, c'était beaucoup plus difficile que la quantité d'informations et de connaissances qu'on doit emmagasiner en ingénieur. Pour moi, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, ça crée plus d'angoisse aussi, plus de responsabilité. Mais j'aime bien ça aussi. C'est pour ça que j'ai continué. Donc... Est-ce qu'on parlait politique à la maison ? Pas tellement, à part pour ce qui est de l'écologie, donc il y avait un peu une conscience écolo. Non, sinon des blagues, on faisait beaucoup de blagues, il devait y en avoir qui traitaient du politique, mais ça allait pas bien loin, quoi.
Merci.
Alors du coup, moi je m'appelle Marie et je rejoins un peu Max par rapport à mon prénom, il n'y a pas trop d'histoire, sinon que j'ai beaucoup entendu Petite Marie de Cabrel toute mon enfance. Peut-être que ma mère aimait bien cette chanson. Les projets de ma mère, je crois que c'était, je pense que ça a changé, mais que c'était que je sois parfaite, en fait. Voilà, que je réussisse sur tout et que, voilà, je sois complètement parfaite, ce qui a plutôt été assez lourd à porter. Du coup, on en arrive à l'école. Du coup, j'étais parfaite à l'école jusqu'à... Parce qu'on commence à se poser des questions à l'adolescence et qu'on commence à se rebeller contre la famille. Donc j'étais première de la classe et puis d'un coup, ça a complètement chamboulé parce que j'ai décidé qu'en fait, ce rôle-là de parfaite, il ne me plaisait pas. Et que ce qu'on voulait que je sois, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai fait tout le contraire, je crois, de ce que ma mère voulait. Je pense qu'elle m'aime quand même aujourd'hui, qu'elle est assez fière de moi, mais je ne pense pas avoir répondu à ses attentes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question après ?
Le milieu socio-culturel.
Le milieu socio-culturel, du coup, ma mère est comptable, mais en fait, c'est parce que son père ne voulait pas qu'elle soit décoratrice en plats culinaires. Sinon, elle est quand même plutôt artiste. Et pour la petite anecdote, à la retraite, elle a directement utilisé ses points de formation pour passer son CAP de cuisine, voilà, qu'elle a eu brillamment avec 18,5 de moyenne. Voilà, voilà. Et mon père était serrurier. Voilà, il avait un camion avec un atelier. Et c'est un peu le rêve de ma vie, d'avoir un atelier. Et j'ai toujours bricolé. Je crois que je me suis toujours sentie très proche de mon père. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre après ?
Est-ce que vous étiez propriétaire ? Enfin, est-ce que tes parents étaient propriétaires ? Est-ce que tu es propriétaire ?
Alors après, mon père étant mort, la famille a été recomposée. Donc aujourd'hui, mes parents, donc ma mère, mon beau-père, ont effectivement acheté. Et je ne suis pas propriétaire, mais mon beau-père m'a proposé de me reconnaître comme sa fille pour que, à l'héritage, je puisse avoir une part, parce que j'ai un demi-frère, et que je puisse avoir une part sur la maison. Voilà, qui a été pour moi, j'ai laissé un peu en suspens cette question. J'ai trouvé ça un peu particulier, même si je comprends son geste. Voilà, après, l'accès à la propriété ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je suis plutôt nomade et j'aime bien les habitats légers. Et du coup, avoir quelque chose à moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Et la dernière question, non, on n'a jamais parlé politique à la maison. Du coup, ça m'a toujours saoulée parce que je crois que je comprenais rien. Mais je pense qu'au fond de moi, je suis anarchiste et que je suis anti-tout, anti pas mal de choses. Et puis maintenant un peu plus grande, je m'intéresse un peu plus à la question politique, mais vite fait quand même. Voilà, sur certains domaines, mais pas trop en profondeur. Voilà.
Merci.
Est-ce que tu as envie ?
Ouais. Alors la première question, c'est quoi ?
L'histoire de ton prénom.
Ok, je m'appelle Maya. Et au début, on voulait m'appeler Amazon, mais c'était avant qu'Amazon Prime ait été créé. Ils m'ont quand même appelée Maya. Et c'était pour la civilisation Maya. Et avec tout ça, tout ce qu'ils ont créé, tout ça. C'est quoi la deuxième question ?
Est-ce que tes parents avaient un projet de vie pour toi ?
Oui. Ils veulent me mettre en classe d'espagnol. parce que...
Tu pourras parler espagnol tout à l'heure, mais il y a un peu de problème.
Mon père est chilien, et du coup, il voudrait que... Enfin, j'ai déjà parlé espagnol couramment, et il voudrait que je travaille plus les conjugaisons, tout ça, que je connaisse bien exactement l'espagnol, quoi. Après...
Ta relation avec l'école ?
J'aime bien l'école. Avant, je détestais, mais franchement, j'aime bien parce qu'il y a la récréation et on a des amis. Même si, j'ai l'impression que le CM2, c'est pour réviser le CM1. Après, le CM1, c'est pour réviser le CP et tout ça. En fait, c'est tout qui se révise. Du coup, quand tes parents, en rentrant, ils disent « Alors, t'as appris des choses à l'école ?» En fait, t'apprends toujours les mêmes choses, je trouve. Et le collège, j'aime bien.
Le milieu socio-culturel de tes parents.
C'est quoi ?
La profession de tes parents, le niveau d'éducation de tes parents, jusqu'où ils sont allés à l'école, en études supérieures ou pas, etc.
Ma maman, elle est éduxpé, et mon père, il est chef cuisinier. Papa, avant, il voulait être, quand il était petit, il voulait être présentateur de télévision. Mais après, il s'est rendu compte qu'il aimait bien la cuisine. Du coup, il a fait la cuisine du monde. Et à chaque fois qu'il voyageait, il regardait les plats, il essayait de les faire. Et du coup, il fait de la cuisine un peu du monde où il y a plein de plats différents.
La question d'après, c'est est-ce que tes parents sont propriétaires de leur logement ?
Non. On a toujours déménagé. On déménage toujours dans plein d'endroits différents. Et j'aime bien découvrir des nouvelles maisons, des nouveaux endroits. J'aime bien.
Et est-ce que ça parle politique à la maison ?
Je sais pas. Enfin, je sais pas forcément ce que ça veut dire. Enfin, si, mais pas trop trop. Du coup, si, sur l'écologie, on parle. Si, si, des fois, oui. Ouais. Non, je sais pas trop, sinon.
Merci.
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 Est-ce que notre technicien veut passer ?
Allez, si vous voulez, ouais.
Si toi, tu veux.
Il va y avoir du montage. Moi, je m'appelle Nicolas parce que je suis né un 6 décembre sur le plateau du Larzac et que c'était la... Non, je suis né un 5 décembre et que le lendemain, le 6, c'est la Saint-Nicolas. Enfin bon, c'est tombé comme ça. Après, c'est sur le... Ce que voulaient mes parents pour moi ?
Oui.
C'est pareil. Je pense qu'ils voulaient que je sois heureux, épanoui. Alors, on a tous notre notion de ce que c'est d'être heureux, mais faire ce qu'on a envie de faire et être libre, dans nos choix en tout cas. Moi, mes parents étaient agriculteurs, mon père est décédé il y a une vingtaine d'années. Ma maman est toujours agricultrice sur le Larzac, par choix. Ils ont fait ce choix de faire des études agricoles. Ma mère était issue d'un milieu agricole, alors que le père de mon père, lui, était plutôt dans l'imprimerie. Et il a fait le choix de faire des études agricoles. Et ils se sont retrouvés sur le plateau du Larzac pendant la lutte du Larzac, en fait, parce qu'il y avait des fermes à squatter pour occuper le terrain, pour pas que l'armée s'installe. Et du coup, c'était aussi une opportunité pour eux d'avoir un outil, une ferme à pas cher, vu que ça coûtait rien, parce qu'il fallait squatter les fermes. Donc ils ont déboulé à 20 ans, ils sortaient du lycée agricole, ils sont installés, ils ont squatté une ferme sur le plateau. Et moi, je suis né un peu dans les travaux, en 83.
L'école ?
Oui, voilà. La relation à l'école ? Toi ?
L'école, ben, j'y suis rentré un peu tard, moi, vers 5 ans. C'était l'école du Larzac. J'étais pas mal dans les jambes de mes parents qui vivaient et qui travaillaient chez eux, du coup, à la ferme. Donc j'étais plutôt dehors à jouer dans les buis, à faire des cabanes ou avec les agneaux. Et puis un jour, ma mère m'a dit, tu sais quand même, il y a l'école, ça se passe comme ça, tu veux pas aller voir ? Ouais. Donc ils y ont posé un samedi matin, je crois. Il y avait encore cours le samedi matin. J'ai passé la demi-journée, ça avait l'air sympa. Il y avait d'autres enfants. Et puis voilà, j'ai attaqué l'école. Et il y avait une grande liberté parce que dans cette école-là, c'était un grand terrain qui est devenu une maison de quartier maintenant, puisque l'école a fermé il y a quelques années. Et on jouait beaucoup dehors, on faisait des cabanes, on était assez libre. On avait des profs aussi qui étaient super, où on faisait de la musique, où on se baladait, on sortait. On était vachement dehors. Et puis quand je suis arrivé au collège, ça a été un peu le choc des cultures. Parce que je suis monté dans un arbre, l'habitude de faire des cabanes, tout ça. Et là, j'ai pris 2 heures de retenue. Ah ouais. Et puis du coup, il fallait s'habiller différemment et voilà, rentrer dans un moule. J'avais été préservé de ce truc-là un peu jusqu'à l'entrée en collège. Et puis là, ça fait un peu mal. Donc après, j'ai suivi le cursus classique jusqu'en troisième. J'avais pas un niveau de folie parce que je bossais pas vraiment. Et puis, je voulais pas partir de Millau, donc j'ai fait un BEP hôtellerie à Millau. Puis que j'ai pas fini parce que c'était en 2 ans. Et puis après la première année, pendant le stage, pendant les vacances d'été, j'étais censé faire un stage pour valider la première année et passer en seconde année. Et là, j'ai été envoyé sur l'Aubrac, dans un 4 étoiles. Et en fait, on était qu'à stagiaires et on devait être formé par des salariés puisqu'on est en formation. Et donc, j'ai fait le premier service du matin. On était qu'à stagiaires, il n'y avait pas les salariés, il n'y avait même pas les patrons du resto, c'était les parents des patrons qui étaient là ce matin-là. Et donc il y a un bus de personnes âgées qui est arrivé, 50 personnes, et on a dû assurer le service. On était 2 en salle et 2 en cuisine, que des stagiaires. Donc j'ai serré les dents, on a enquillé le service, puis après je suis allé dans une cabine téléphonique parce que j'avais pas de portable à l'époque. Et j'ai appelé le directeur du lycée en leur disant, voilà, il y a une convention de stage, on est censé être encadré et formé par des gens puisqu'on apprend le métier. Or là, il n'y a personne en fait, et on fait leur boulot gratuitement. Je dis, ça s'appelle de l'exploitation. Terminé, je rentre moi. Je finis pas mon stage, ça va pas se passer comme ça. Voilà, donc fin de l'hôtellerie. Il se trouve qu'en fait, à Millau aussi, il y avait le 30 juin 2000, parce que je faisais partie de ceux qui avaient démonté le McDo en 99. Et il y a eu une grande fête parce qu'il y a eu un procès à Millau.
Ça me faisait très bien que j'étais là.
Ça me faisait chier de rater ça aussi, en fait. Du coup, j'ai pu participer à ça. Noir Désir, Cabrel et Zebda, et puis voilà, l'alias populaire à la maladrerie. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais je m'éloigne, je divague.
Alors, est-ce que tes parents étaient propriétaires de leur logement et est-ce que vous parliez politique à la maison ?
Alors, propriétaires, non, parce que donc ils ont squatté une ferme et puis après, il y a le fameux modèle SETL qui s'est mis en place. Donc en fait, ils sont locataires, ils ont un bail d'usage sur l'endroit où ils sont. Et là, ils vont arriver à la retraite, donc il va falloir qu'ils quittent les lieux. Donc ils ne sont pas propriétaires. La maison qu'ils habitent et dans laquelle ils vivent, ils travaillent et ils nous ont fait naître va être remis dans le pot commun et c'est quelqu'un d'autre qui s'installera pour faire perdurer l'outil agricole. Donc ils ne sont pas propriétaires. Moi, je suis propriétaire depuis peu.
Et est-ce que ça parlait politique à la maison ?
Est-ce que ça parlait, je ne sais pas si ça parlait, mais disons que mon père a été trésorier national du parti Les Verts pendant de longues années, c'est-à-dire qu'il montait à Paris en train de nuit à Millau. Ça existait encore le train de nuit. On se calait dans un train à Millau le soir, on arrivait le matin à Paris. Et du coup, ça parlait pas forcément directement, mais vu les prises de position qu'il avait de par ses fonctions, en fait, moi j'ai été un peu baigné là-dedans, de parents agriculteurs, donc de prendre soin de l'environnement, de ce qui nous entoure, de la nature, des animaux, des gens. Et forcément, ça a forgé ma personnalité. Même si c'est pas des choses forcément avec à lesquelles on discutait entre nous, mais disons que ça m'a influencé.
Merci.
Avec plaisir.
Merci.
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 Alors, je vous propose un petit débrief, retour sur cet atelier, et puis après, je ferai un petit point de contexte de clôture. Et alors, en point de débrief. Je vais vous poser, alors histoire de faire un peu court, il y aura deux questions. La première, c'est comment vous êtes senti quand vous êtes raconté, et après, comment vous avez regardé l'autre ou senti l'autre une fois qu'il s'était raconté. Est-ce que c'est clair? Je peux reformuler.
Oui, c'est très clair. Comment ça?
Et je t'en prie.
Alors moi, je vais très bien. J'ai très bien senti l'affaire. Je vais de faire un bilan de santé. Marine, moi, c'est ma généraliste. On fait faire un bilan de santé. Je suis en pleine forme. Ce que j'ai raconté, tout a été exact. Donc, ça ne pose aucun problème. Je suis très content de ce que j'ai dit. Et ce que Nico a raconté sur soi, parce que c'est pas ou toi ou n'importe qui, tout le monde, là. Très bien. Je me suis senti très à l'aise. Et je suis très content de participer à l'émission.
Merci.
Merci.
Moi je me suis sentie un peu comment dire, peut-être gênée quand je parlais de moi, parce que voilà, c'est pas forcément facile quoi, et aussi de choisir ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, là où on s'arrête et tout. Et mais après voilà, j'ai beaucoup aimé entendre les récits de chacun, la variété des parcours, la sincérité des gens, et je trouve que ces quelques questions voilà, tissent déjà pas mal de choses pour rencontrer quelqu'un et l'écouter.
Merci.
Moi, je me suis senti... J'étais parti pour faire quelque chose de court. J'ai pas pu me retenir de faire un petit peu long. Et quand j'ai eu terminé, j'étais frustré d'avoir manqué plein de choses. Plein de choses, j'avais l'impression que j'avais pas dites sur mes parents et tout. Et j'ai eu du mal à écouter la personne suivante, du coup, parce que j'étais encore dans mon truc un petit peu. Petite frustration aussi de ça. Enfin, au début, après, je me suis un peu recentré quand même. Et j'étais super content parce que c'était. Enfin, quand on avait préparé cette journée coopérative, j'avais émis le souhait qu'il y ait des anecdotes sur des gens, enfin, que les gens racontent des anecdotes de leur vie à la radio, et ça s'est réalisé, alors c'est trop bien, je suis trop content. Et bravo, merci! Voilà.
Merci.
Bah moi, du coup, c'était assez difficile parce que prendre la parole à la radio comme ça, c'est pas facile déjà. Je crois que c'est la première fois et c'était difficile. Et puis même parler de soi. Et puis j'ai un jugement sur ma vie que je juge un peu mon histoire pas très intéressante. Et du coup, j'ai du mal à la raconter aussi. Mmh. Voilà. Et sinon, j'ai adoré écouter les autres, hein, pareil comme Alice. Voilà, je trouve ça toujours hyper émouvant d'entendre la sincérité et les parcours de chacun. Donc merci de vous être prêté au jeu, c'était chouette. Et d'entendre ma fille aussi raconter son parcours, c'était génialissime.
Carrément.
Merci.
Bah, j'ai bien aimé. Et en fait, quand j'ai parlé, j'avais totalement oublié que c'était la radio. Du coup, et j'adore parler au micro, je trouve que c'est super. Et je trouve que c'est cool aussi d'entendre tout ce que les autres ils ont vécu, parce qu'il y a plein de gens quand même qui ont vécu des choses qui sont aussi un peu similaires. Du coup, c'est marrant d'entendre les choses. Voilà.
Merci.
Merci.
Moi, c'était un peu pareil au début, prendre la parole. Je suis technicien normalement, donc je pousse les boutons, mais c'est pas moi qui suis au micro. Ça fait 20 ans que je pousse des boutons. Et là, je me livre un peu, en plus, à des gens que je connais pas, un peu des inconnus, des gens que je connais plus parce que je les fréquente, mais auxquels je me livre pas non plus forcément, puisqu'on travaille ensemble et qu'on n'est pas forcément là pour parler de nous non plus. Donc un peu, hop, ce petit saut dans le vide. Et une fois qu'on y est, voilà, on déroule. Et puis il y a aussi ce côté miroir, ce que tu disais Marie, est-ce que ça va être intéressant ce que je dis, mais qu'est-ce que ça va apporter et tout ça. Et en fait non, c'est simple quoi, on discute, on échange, chacun apporte son truc, pose le truc sur la table, et puis il s'ouvre à l'autre en fait. C'est peut-être comme ça que commence une amitié où voilà, on se livre un peu à quelqu'un, et il se livre en échange, et puis après on voit si on a envie d'aller plus loin quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est un peu une thérapie, là. Et le fait d'écouter des autres aussi, c'est très, très enrichissant. Et ça aide aussi à savoir comment on se place par rapport à la personne et qu'est-ce qu'on a envie d'aller faire avec cette personne ou pas. Est-ce qu'on a des points communs ou pas. Enfin, ça donne envie d'aller plus loin, en tout cas. C'est une invitation à prolonger la discussion. Et ça, je trouve ça chouette.
Merci.
Il y a quelque chose que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, au début, quand tu as proposé les questions, en fait, il y a une petite voix à l'intérieur qui m'a dit « Oh, mais c'est chiant, ces questions !» Ça ne m'intéressait pas, quoi. Et en fait, en écoutant, je me rends compte qu'en fait, elles sont hyper intéressantes, justement pour entendre parler de l'histoire des personnes, quoi. Donc ouais, le changement a été rigolo, puis j'avais envie de le souligner. Ouais.
Merci.
Il y a Chloé qui se cache derrière, je pense qu'elle veut faire son retour aussi.
Je veux bien faire mon retour, je ne me cachais pas, c'est juste que la scène ouverte s'est lancée en parallèle et du coup voilà. Alors comment je me suis sentie mon sujet de conversation préféré c'est moi, donc je me suis plutôt bien sentie. En fait, je suis actuellement en formation et c'est un exercice aussi qui m'intéresse sur comment je me présente, comment je parle de mon parcours que j'ai fait pas mal cette année. Donc voilà, c'est quelque chose qui devient un peu habituel. Mais j'avais vraiment envie de le tester, donc je me suis sentie non seulement bien, mais un peu excitée de « Enfin, je teste ce jeu-là !» Et d'écouter les autres, je trouve ça super émouvant, en fait, dans ce que ça me touche de résonance de certains parcours ou dans justement la différence et dans le fait qu'on arrive à faire collectif malgré les différents endroits d'où on part et là précisément sans théoriser, analyser, blablabla, là ce qui s'est dit et ce que j'ai entendu, ben, ça m'a fait du chaud doudou en fait d'entendre les différents parcours et de voir, je sais pas, des vécus hyper différents et qui se rencontrent aujourd'hui. Bon, voilà.
Merci.
Alors malgré le fait que j'ai l'habitude de faire cet exercice, parce que du coup c'est pas la première fois que je l'anime mais que je le fais, je me suis senti en difficulté là pour évoquer une partie de mon histoire. J'ai été touché d'entendre celle des autres et j'adore mesurer à quel point je sens mon regard changer au fur et à mesure que j'entends l'autre s'exprimer et comment je le vois sous un nouveau prisme. Et c'est du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice, y compris. Et voilà pour mon retour. Je vais faire quand même un petit exposé de l'intérêt en fait de cet exercice. Et puis je vais le faire politique. On est dans une société capitaliste, coloniale, raciste et patriarcale, validiste, psychophobe, et on en passe. Et du coup, l'endroit d'où on parle est très important à rendre visible quand on veut parler de quelque chose, parce que c'est souvent quelque chose qui est en fait invisibilisé. Et beaucoup de gens qui s'expriment à la radio, qui s'expriment dans les médias, ont une tendance à se parer d'une neutralité ou d'une objectivité quand ils parlent d'un sujet, sans dire d'où ils parlent de ce sujet. Et on porte tous des lunettes, en fait, sur le monde, et ces lunettes sont conditionnées par d'où on vient, est conditionné par les choix qu'on fait dans notre vie. Et ne pas les dire, ne pas les nommer, c'est biaiser, en tout cas, à qui on parle, d'où on regarde ce sujet. Et du coup, quand on est dans une organisation collective, pour moi, c'est très important en fait de faire ce travail-là pour l'interconnaissance, pour comprendre la sensibilité des gens avec qui on est en train de relationner et d'essayer de s'organiser, et aussi pour comprendre un peu du pourquoi la personne qui est en train de parler d'un sujet, il en parle de cette façon. Et pour moi, en tout cas, ça me donne beaucoup plus d'empathie quant à comprendre en fait pourquoi il en parle avec autant de force, pourquoi c'est autant impactant pour lui, elle, de parler de ça. Et du coup, moi j'ai très envie, dans l'ensemble de nos organisations collectives, que l'on systématise des pratiques de ce type-là qui nous permettent aussi de nous raconter. Parce que ça aussi, c'est peu commun en fait dans notre société que d'apprendre à se raconter et à un peu se livrer. On peut pas jouer à se mettre à nu totalement, mais donner quelques bribes de compréhension, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'affinité ou de compréhension de l'autre et de soi. Parce que si vous vous amusez à faire cet exercice à nouveau, vous verrez que vous ne direz pas obligatoirement les mêmes choses. Et à force de répéter cet exercice, en fait, on se rend compte que, en fonction des gens avec qui on est, on ne dit pas la même chose. Parce qu'y compris, il y a des enjeux qui se jouent dans nos relations. Et il y a des enjeux de qu'est-ce qu'on veut donner à voir, qu'est-ce qu'on ne veut pas donner à voir, qu'est-ce qu'on veut livrer, qu'est-ce qu'on ne veut pas livrer. Et ça, tout ça, c'est des jeux sur lesquels nous, on essaye d'accompagner dans l'éducation relationnelle à qu'est-ce qui se joue dans la relation aux autres, qu'est-ce qui se joue dans la relation à soi et qu'est-ce qui se joue dans la relation interpersonnelle. Voilà, merci d'avoir participé. Oui.
Merci, merci Riles pour cette animation.
Merci pour la
proposition. Ouais. Donc voilà, oui.
C'était pour dire merci.
Merci.
Eh ben oui, merci à tous et à toutes hein, pour votre participation et votre implication dans cette émission au milieu de la coopérative d'Envie en Jeu, au milieu des enfants qui jouent. On voit passer des gâteaux, là, on entend plein de choses et il y a la scène ouverte qui a commencé, on va peut-être rejoindre. Voilà, moi je suis très contente, je ne savais pas trop où on allait avec cette émission, cette émission en cercle de jeu et pour finir presque un cercle de paroles. Voilà, on est assis sur la scène avec le micro devant nous. Et voilà, ben c'était très chouette. Donc c'est une émission que nous avons enregistrée dans le Créa, dans la chapelle du Créa. Merci à Nico pour la technique, donc pour l'événement coopératif organisé par Envie en Jeu. Et voilà, merci.
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 Merci. Merci beaucoup.
Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.
Vous venez d'entendre une animation proposée par Riles d'Envie en Jeu lors de la coopérateuf, s'amuser et faire ensemble pour mieux se connaître. À bientôt pour ce rendez-vous autour des pratiques coopératives.